Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire de l'émission du dimanche 21 décembre, c'est aujourd'hui, forcément Odile. Bonjour Odile.
Bonjour.
Voilà. Nous partons en Thaïlande avec Robert et Odile de Godez. Bonjour.
Bonjour.
Ça va nous réchauffer. J'ai un problème avec le casque encore.
Ouais, moi aussi.
Ouais, non, tout le monde.
Tout le monde a un problème avec le casque. Ah ouais. Voilà. Donc on va parler de ce fabuleux pays magique. J'ai vu les photos. Hein. Vous avez fait une espèce de petit récit là, une quinzaine de pages.
Oui.
Robert,
ouais,
c'est
ouais.
Vrai.
Ouais, ouais.
Il faut que vous dites
bon
que c'est vrai.
Oui, bien sûr, c'est vrai. La surprise sera peut-être un petit peu plus tard parce qu'on est parti quand même à des Globe Moto Magazine et il y aura un reportage.
J'ai vu ça. Ouais.
De 12 pages
ouais,
en Moto Mag.
12 pages en Moto Mag dans le prochain, au mois de février. Voilà. Donc pays. Et je savais pas, Robert, que tu voulais te faire pousser le cou là. Je t'ai vu.
Je me suis fait avoir.
Raconte-nous un peu. On t'a vu avec un collier dans le cou là et t'avais l'air complètement étranglé.
Voilà.
Bien fait du bouche à bouche.
On était dans un village de femmes girafes et bon, on s'est prêté un petit peu au protocole et puis pour faire la photo, quoi. Il fallait bien qu'il y en ait un qui se fasse prendre. Quoi.
Alors bon, il faut avouer quand même que c'est un peu touristique comme la Thaïlande. Hein. Mais vous êtes parti donc sans passer par un prestataire ni un tour opérateur, un peu à l'arrache, hein, comme ça. Hein.
Tout à fait.
Hein, c'est pas le voyage qu'on fait. Son petit billet là dans un centre commercial et puis on reste à l'hôtel pendant une semaine.
On avait un billet d'avion 7, c'était suite à un repas avec des amis.
Alors, il faut raconter un peu l'histoire, ça, c'est toujours comme ça les trucs. Hein. On se fait une petite bouffe, on boit un petit coup, puis et tiens, si on allait en Thaïlande.
Voilà.
Oh ben exactement. Allez, pourquoi pas Odile.
Pourquoi pas.
Voilà, on a un copain qui est Francesco Scuderi, qui est un des grands photographes de Motomag, et donc qui a l'habitude de voyager, il nous a proposé le truc, on a dit, allez, on signe. Sachant que c'était un billet sec, hein, après c'est l'aventure.
Voilà, après c'est l'aventure, hein. Et vous l'avez fait en moto, hein, bien sûr.
Bien sûr, évidemment.
Bon, effectivement, pour vous, la Thaïlande, c'est loin, parce que l'expérience que vous avez des pays, c'est la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, hein, maximum. Hein.
La Tunisie.
Et Tunisie, Robert. Hein, Robert de Coët, tout le monde le connaît, hein, c'est un rallyman. Audi aussi, Audi. Bah oui. Voilà, donc là, Thaïlande, pour vous, c'est vraiment le dépaysement.
Exactement. C'était un grand voyage qui n'était pas envisagé.
Alors après, avec Christine, on parlera des plages, hein, parce que ça, c'est plutôt le côté féminin. Hein, voilà. C'était 15 jours, une semaine moto hein, dans le nord. Apparemment, le nord de la Thaïlande est plus beau que le sud, ou plutôt c'est les plages sur le sud et le nord, les montagnes. Apparemment, j'ai vu.
Moins touristique.
Ouais, c'est moins touristique. Voilà, très bien.
Il y a du monde, hein, mais je veux dire, par rapport au sud, où tu es plutôt dirigé vers les plages, et puis tout ce qui est...
Voilà.
Le nord, tu fais ce que tu veux.
Vous avez fait l'inverse, en fait.
Ouais, voilà,
c'est un peu comme en France. Hein. C'est un touriste qui viendrait dans le nord de la France, évidemment, il ne serait pas embêté par les touristes.
Non, puis bon, le pays, je pense que par les tarifs, ne serait-ce que location de moto, le prix de l'essence et le prix des avions...
Tu vas nous dire que ce n'est pas cher, le pays, j'ai fait les calculs, là, c'est tout en... très bien. Voilà, on continue le sommaire avec Nicolas Poiret. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Impeccable.
Bon, écoute, on va parler d'une évolution du marché de la moto.
Oui, on va faire le bilan de la moto.
Un sujet très sérieux, là. Hein,
très sérieux.
Pour notre dernière émission de l'année.
Mais bon, c'est intéressant à analyser.
Ouais. D'accord. Et puis, si on a le temps, on parle un petit peu du championnat du monde de vitesse 2015.
Hein, si on a le temps, fera le point.
Bonjour Yanis, ça va bien également?
Bah ouais, ça va être bien, je crois qu'on a des invités
au
téléphone.
On va avoir Jacques Montagnon, en fait, tu sais qui c'est?
Bah c'est l'organisateur des Marmottes.
Voilà, c'est ça. Et c'est la première hivernale.
C'est la première hivernale de l'année en France.
De l'année en 2015.
Ouais, et c'est la plus haute hein, en Europe avec plus de 1000 mètres d'altitude.
À Saint-Véran, c'est le petit village le plus haut d'Europe, effectivement.
Voilà, exactement.
Et en plus, on va avoir aussi...
Gilles Lully.
Alors lui, j'étais voir sur son blog, alors là, c'est... Il est incroyable, ce mec-là.
C'est l'organisateur du rallye des cols blancs,
ouais. Hein,
qui va avoir lieu fin janvier, s'il me semble. Hein. Oui, fin janvier. Et bon, c'est un rallye qui se passe sur une journée à l'assaut des cols de Savoie ou de Haute-Savoie. Il va nous expliquer ça, Gilles.
Voilà. Au téléphone. Bonjour Christine, l'Info Club aussi.
Oui, l'Info Club.
Alors, ça vient, l'Info Club. Hein, le calendrier des motoclubs est presque terminé. Et croyez-moi, on manque de place. Voilà. Et à la technique et à la programmation musicale, c'est Laurent Rogier.
Bonjour.
Bonjour.
five in the morning. Baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Sitting here thinking, can't tell you what about. Wish I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. My soul craves water, but my heart wants wine. Standing at the crossroads, wondering which way is mine. Life's a winding road, can't see around the bend. And when the blues takes you down, feels like a dead end. Broadway, could have been Fannin Street. Led Belly's voice in my head, feet skipping to his beat. Now there was a man, had a story to tell, bringing us pure water. Down in the well, deep down in the well. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery.
Bien le programme de l'émission. Voilà, on part en Thaïlande aujourd'hui avec Odile et Robert de Godez. Vous êtes partis le 16 novembre.
Exact.
Un 15 jours là-bas, donc forcément quand on a... Alors vous êtes partis d'abord avec un pote, hein, c'est Francesco Scuderi, c'est ça, il est reporter.
Et photographe. À Moto Magazine, et on est servi un petit peu de cobaye pour faire le papier qui va sortir février-mars. Quoi.
D'accord, donc on pourra suivre...
Peut-on partir à l'aventure en Thaïlande avec un billet sec, en fait, c'est un peu le thème, et découvrir les routes avec des motos de loc sur place.
Voilà.
Voilà, et puis être les épouses.
Oui, en plus.
Oui,
en
plus.
Bah oui, non, mais je veux dire, c'est ça.
C'est quoi, c'est un bagage en
oui,
en
plus, voilà, c'est ça a l'air. Hein.
C'est voilà, on a pris sa cloche cavalière pour pas
voilà,
avoir souci,
pour les mettre dedans. Dedans. Oui.
Non, non, et pas de top caisse pour mettre les femmes dedans. Non, non, mais c'était à vivre. Quand
d'accord.
Même. C'est une expérience très très intéressante, enrichissante au possible par rapport à la population.
Bah toi, c'était une découverte hein, aussi, Robert.
Ah oui,
parce
oui,
que,
total,
bon,
ouais. Oui, j'étais habitué.
Tu changes de continent, là.
Ouais,
hein,
ouais,
voilà.
Ouais.
Donc voilà, donc on va faire comme tous les touristes, hein, forcément, quand on part le 16 novembre d'ici, enfin, je suppose que vous êtes parti de Roissy, et on arrive là-bas en Thaïlande, il y a un petit décalage de température.
Voilà, un choc thermique.
Voilà. Donc là, il faut s'habituer au truc.
Oui,
voilà.
Bah Bangkok, oui.
On s'habitue très vite, très en vite, fait, hein. Voilà. Dans ce sens-là.
Très bien. Et après, on part. Alors, il faut aussi, comment dire, s'habituer à la monnaie, parce que donc, ouais. Moi, je sais pas, je suis jamais allé en Thaïlande, mais apparemment, c'est le baht là-bas.
C'est le baht, ouais.
Alors,
ouais,
c'est, voilà. C'est l'équivalent à l'euro. Ou,
bah, là, 40 bahts, ouais. C'est 1 euro. Et ouais. Tu manges pour 40 bahts le midi, quoi. Donc, ça va vite à calculer. Une bière, c'est 80.
Voilà, une bière, donc. Une bière, c'est 80. Ouais. Ah, bah donc, ça fait 2 euros quand même, là.
Ah, c'est un budget, les bières.
Ah, ça fait quand même un budget, ouais.
Ça
hein.
Fait 2 repas.
Ça voilà. Fait 2 repas. Oui, d'accord. Ben oui, finalement, donc, c'est pas. C'est un budget, quand même, là. Hein. Ouais. D'accord. Donc, on commence en scooter.
Voilà. Oui, bah, disons que.
Expliquez-nous pourquoi vous avez commencé en scooter.
Bah, parce que tu prends un taxi ou n'importe quoi, tu vas payer 250 bahts la course. Il faut savoir qu'un scooter, c'est 200 bahts la journée, c'est-à-dire 5 euros. Le litre d'essence est à 76 centimes, et puis tu prends un 125 et tu te promènes où tu veux.
Alors,
et...
c'est des scooters qui sont bien entretenus, parce qu'on peut se dire. Ouais, bon, ouais. Parce que moi, je connais des pays où tu loues des scooters. Faut pas avoir peur, hein.
Non, là, tu sais. Non, faut savoir de Bangkok, on est monté à Chiang Mai en avion, donc pour une soixantaine d'euros, on a fait 1000 km. On est arrivé chez un loueur, donc vraiment, il y avait du MT-09, du FZ-800, il y a tout ce que tu veux en moto ou presque. Et si le scooter c'est 5 euros par jour, la moto c'est 25, quoi. Donc voilà.
D'accord. Donc là-bas, vous allez louer une 500 CBX.
Ouais.
Ah, c'est
ouais.
Un truc qu'on ne connaît pas ici.
Non, c'est le CB qu'on connaît, Trail. Donc après, on a fait un petit essai vite fait pour voir si ça allait à nos chères compagnes, quoi, parce qu'il faut que ce soit confortable quand même.
Ah oui, vous avez quand même essayé le.
Oui, Audi, on a eu le droit de dire que c'était bon.
pour tester la selle.
Ouais. Non, c'était confort et sans souci.
Vous aviez fait un parcours, je suppose, quand même avant, quand même. Non, comme ça, vous êtes parti, là voilà. Tranquille. Vous ne saviez pas combien de kilomètres vous alliez faire.
Si, à peu près, on savait où on allait, mais de Chiang Mai où on était, on a pris une 4 voies pendant 60 km, et quand on a tourné la première à gauche pour rentrer dans la montagne, ouais. On savait où on allait, et là, c'est un choc, quoi.
Et après, ouais, c'est un choc.
Ah ouais, en 5 km, il n'y a plus rien de différent, t'es dans la campagne, on s'est arrêté dans une petite épicerie, on a tout de suite pris contact, enfin voilà, quoi, c'est extraordinaire. Et les gens sont adorables.
Oui, alors j'ai lu ça, effectivement, il paraît le...
Très gentil,
Sourire, leur sourire.
C'est légendaire, là, le sourire.
Ouais, c'est pas une légende.
Là, c'est pas une légende.
Et en fait, quand tu passes 15 jours là, les gens sont tellement zen que tu profites de chaque journée. Enfin, moi, c'est une impression, hein, mais j'ai l'impression d'être parti un mois, quoi.
D'accord. On voit que vous êtes revenu bien zen. Hein.
Vous avez, tout à fait. Vous avez c'est vrai qu'on est... on a pris beaucoup de leur...
Zénitude.
On va passer à un morceau de musique. Après, on parlera un petit peu la prise de contact de la moto, hein, et puis après votre départ, parce que le nord de la Thaïlande, apparemment, c'est montagneux.
C'est montagneux. Il y a un gros pic où on peut monter à 2003-2004. C'est le point le plus haut de la Thaïlande. On a évité parce qu'on avait un pote qui était malade. Mais on est passé juste à côté, mais on a fait quelques cols. Bon. Les routes, géniales.
Three strikes against me, my sister can't sleep, waiting for me when I'm gone. She wishes I'd distance myself from those streets, and I'd wake a fool to the dawn. And then I see you completely distraught, claiming to be everything that you're not, masking the truth until there's no end. I waited before, but I won't. Won't wait again. Distance by the days and the weeks and the months, my mind will never shake. I really can't pinpoint just where you left off, what's real and what's masquerade. And then I see you're completely distraught, claiming to be all it is that you're not, and masking the truth until there's no end. We waited before, but I won't wait again. Three strikes against me, my sister can't sleep, Must put some ice on those wrinkles. You claim you're hitting home runs, well, triples at least. Can't get a minor league single. And then I see you're completely distraught, claiming to be all it is that you're not. Masking the truth until there's no end. I've waited before, but I won't wait again. Won't wait again. I won't wait again. I won't wait again.
Voilà, allez, retour avec Odile et Robert de Gonesse. On repart en Thaïlande, bah, ça nous change, hein, parce que 33 degrés là-bas, effectivement.
Oui, le retour serait... a été plus difficile ça, que l'arrivée là-bas.
Voilà, donc on a pris la moto, Robert, une moto en état, on peut louer une moto tranquillement, sans commencer à faire de la mécanique, changer...
Non, sont tous en bon état. Bon, j'avais deux pneus un peu fatigués, mais comme on roulait, bon, enfin, j'ai usé un peu les pneus, quoi. Mais non, en bon état, c'est des motos qui ne consomment pas, comme je te
disais. 4 litres au 100,
de toute façon, on cruisait, hein, on s'arrêtait quand les femmes avaient envie de s'arrêter, on regardait les paysages.
Bon, c'était un voyage.
On mangeait...
Pas un rallye là, voilà, on met pas le genou par terre là, Robert.
Hors de question.
Ceci non, dit, on connaît tous Robert. Hein.
Justement.
Ceci dit, les routes sont vraiment, se prêtent vraiment.
Alors voilà, l'état des routes,
c'est nickel. Hein.
Parce que dans ce que tu racontes, tu dis, tu vas tâter le bitume pour voir un peu s'il accroche.
Ouais, ouais,
alors
voilà.
On connaît le rallyman.
Ouais, bien sûr, tu mets le pied par terre pour
déjà pour voir un peu.
Ouais,
ouais. Bon,
alors un truc intéressant aussi, pas de camion.
Oui, alors ça, oui.
Il roule que de nuit.
D'accord.
Donc deux jours, t'es encore plus zen. Tu roules à gauche, bon, ça on s'y fait relativement vite.
Ah oui, ça roule à gauche. Hein.
Ah oui, ça roule à gauche. Hein.
Ouais. Ouais, ouais. Bon, en moto, ça va encore, il n'y a pas trop de problème.
Ça roule des fois partout, mais ça roule surtout à gauche. Quoi.
Mais ça roule partout.
Dans l'ensemble, je crois que sur tout le séjour, on a dû entendre deux coups de klaxon. Alors c'est le bordel partout.
Ça devait être des touristes parce que c'était
pas
thaïlandais.
Ouais, voilà, peut-être. Ouais. Ouais. Non, mais même tu vois, dans la circulation, je pense qu'ils ont gardé leur zénitude et il n'y a personne qui se prend la tête à klaxonner, ça passe, bah c'est bien, ça passe pas, bon, on attend. Je pense que c'est notre philosophie.
C'est
aussi
une belle leçon de
les feux
pour
rouges,
le, pour
par
nous,
contre,
les Français.
Les feux rouges, ils ont tendance à les oublier quand même. Donc ça, on s'habitue vite aussi.
Qui sommes intolérants, voilà.
Ouais.
Donc vous prenez la route des 1864 virages. Alors il faut vous nous expliquer le périple que vous avez fait là.
Voilà, c'est ça. Bon, c'est une route mythique qui fait partie du nord de la Thaïlande, donc qui part de Chiang Mai, qui monte jusqu'à Pai Mayon Song, et nous on a prolongé un petit peu le périple parce qu'on est arrivé à 3800 virages, quoi, en tout.
Et ah oui, quand même.
Et ouais, voilà, c'est ça. Donc ça reste de la montagne, ça reste du beau virage. Parfois il y a des épingles où t'es en première. Je pense pas que ce soit désagréable au niveau de la passagère parce que c'est vrai que t'es concentré sur la route et t'as envie de profiter du paysage parce que c'est beau partout.
C'est vraiment une belle balade sans que ce soit sans qu'on soit un petit peu en
stressé
tout ça reste zen.
C'est embêtant parce que on a toujours envie de s'arrêter pour prendre des photos ou un beau paysage.
J'ai une photographe derrière mais
je prends les photos derrière.
Je connais ça suggéré par le paysage, donc on s'arrête, mais le problème c'est qu'il faut quand même rouler parce qu'on a quand même des impératifs. Mais
dans le même temps, ça reste des vacances, donc on peut s'arrêter de façon régulière et à notre envie.
Et tu nous dis, vous nous avez dit 3800 virages, hein, ouais. Et vous les comptez à chaque fois?
Oui,
c'est, tu prends des notes ou c'est sur la carte?
Très franchement, non, on les a crus sur parole.
Mais c'est 1864 et oui. Vous, vous en avez fait 3000, c'est ça?
Bah, je pense que c'est...
Robert, je suis sûr qu'il s'est dit, ça c'est une bonne partie, on va le refaire 2-3 fois.
Non, non, en fait, c'est une grande boucle qui fait tout le nord. On s'est retrouvé d'ailleurs pas loin de la Birmanie un moment, en allant dans un virage, dans le village où il y avait les femmes girafes et tout. Mais non, non, une découverte du bon bitume, des bonnes motos. Puis c'est un pays du deux-roues, donc tu vas être d'accord avec moi dans un sens où tu te balades avec un deux-roues et non pas, tu descends pas d'un autocar. Dans un pays où les gens roulent tous en deux-roues, t'arrives, t'es tout de suite chez toi. Quoi, pour...
Alors on voit bien, même la signalisation, hein, elle est, ça montre bien qu'il y a des virages. Hein, donc c'est un panneau avec carrément une flèche qui tortille en tous les coins.
Virage sur 200
rigolo et il y en avait partout. Hein, ça.
J'avais envie de faire un montage, j'aurais marqué virage sur 250 km.
Ah oui, bah dis donc. Hein,
c'est le pied.
Est-ce que vous avez rencontré, il y a des motards, des clubs là-bas, il y a des motards, il y a des balades en groupe.
Il y avait beaucoup de gens qui promènent avec les 125 parce que bon, ils ne se sont pas posés la question de savoir si on allait leur demander le permis ou pas, je pense que c'est ça. Après, il y a quelques Européens qui roulent sur tout ce qu'il y a. On a croisé des motoclubs, des gens de Bangkok. Avec des super Ténéré, des 1200 GS, 1000 CBR. J'ai même vu la nouvelle aventure KTM qui venait juste de sortir à Cologne. Donc surprenant. Ah ouais, ouais. Et bon, eux, ils sont là pour se tirer à la bourre. Ils font Bangkok aller-retour sur 5 jours ou 6 jours. C'est des motoclubs. Et c'est leur trip. Ils font une fois dans un sens, une fois de l'autre.
Ça veut dire 5000 km, c'est ça, tu nous disais tout à l'heure, Robert?
Ouais,
5000
ouais.
km sur 3-4 jours, 5-6 jours.
Sur 5-6 jours, ouais. Ils descendent de Bangkok, ils remontent au nord et ils vont presque jusqu'à la frontière Laos et après ils redescendent. Donc c'est un rythme soutenu. Hein.
D'accord. Mais,
ils sont très équipés.
Hein. ils sont très équipés.
Ah ouais, ils sont en cuir, ils sont malgré la chaleur. Enfin, je veux dire, nous, on était quand même plus light.
Ils, ils ont une culture germanique de la moto.
Non, européenne quand même. Hein. C'est surprenant, beaucoup d'européennes. Hein.
Non, mais germanique. Dans le sens de l'équipement. Non, l'équipement.
Ah, l'équipement. Ah, l'équipement. Ah, ouais, en fait, je vois de quoi il veut parler Yannis. Bah, c'est parce que si tu vas par exemple des pays chauds, genre la Grèce, par exemple, les Allemands, tu les vois toujours en cuir.
En cuir.
Même s'il fait 45 degrés, ils sont toujours en cuir.
Nous, on roule en short, c'est
et
pas
nous,
bien.
Nous, on est en short. C'est pas bien, Robert.
C'est un peu ça.
C'est pas bien, mais bon, qu'est-ce que c'est bon.
Ouais. My baby puts a hairspray on, lit cigarette in her mouth. Takes a fingernail polish off, speeding down some road out. Got a carburetor so leaned out, I think she's burning Pam. I'm a son of a locker salesman, she called me her lover man. Don't you talk about mine, don't you talk about mine. Don't you talk about my baby, my baby, my baby, my baby, my baby. Don't you talk about mine. My baby, my baby, my baby. She wants to treat a horse to do cartwheels, put a coyote in a sleeper hole. Her heart's been pierced by love repeatedly, but her mind is magnetic and bold. All she ever got out of women's college was some kind of fifth degree. Seems she couldn't keep her skirts far enough down below her knee. Don't you talk about me. Don't you talk about mine. Don't you talk about my baby, my baby, my baby, my baby, my. Don't you talk about mine. Don't you talk about mine. Don't you talk about my baby, my baby, my baby, my baby. When that sun comes up, she'll be dead hitting all the wrong.
careless panties with a hickory cane and an old straw hat. Fringe velcro to a buckskin jacket, cause daddy never let her leave the house looking like that. She's so beautiful it hurts my feelings. I think she's been around once or twice. A thousand years of heart she's been stealing. I'm happy to pay love sacrifice. Don't you talk about my, don't you talk about my, don't you talk about my baby, my baby, my baby, my baby, my. Don't you talk about my, don't you talk about my, don't you talk about my baby, my baby, my baby, my baby. Don't you talk about my, don't you talk about my, don't you talk about my baby, my baby, my baby, my baby, my baby.
On retourne en Thaïlande avec Odile et Robert de Godez. On va presque terminer ce voyage. Vous avez visité une grande ville.
Chiang Mai.
Chiang Mai.
Chiang Mai.
Qui vous a marqué, en fait. Vous avez trouvé que c'était une ville vivante, avec plein de petits marchés.
Il y a des marchés partout.
Expliquez-nous un peu comment on roule en moto dans cette ville. Il faut respecter, il faut faire attention, non? Les flots, les stops, je sais pas, on se croise.
La zénitude.
C'est vivant, c'est.
La zénitude au Lidon.
Voilà.
Il n'y a jamais rien qui se passe et tout va toujours bien.
Tout va bien là-bas.
Et même si tu roules à gauche, tu as des tout-tout, des trois roues, des mamies avec leurs enfants. Enfin, voilà quoi. Le flux de la circulation se fait en fonction de.
Dans les énervés de la poignée, c'est pour là-bas qu'il faut aller.
Ah oui, t'en as un de temps en temps comme partout. Ouais. Et puis bon, c'est des grandes villes et puis on parle de voyage, donc tu sais que bon, tous les soirs, il y a les petits marchés nocturnes qui plaisent énormément à nos chers étendres.
Le soir, après avoir fait 1864 virages, on aime bien le soir.
On a le droit de
se
balader.
Se détendre.
Et Chalville traversée, un marché nocturne, donc juste une certaine heure, c'est des fringues, c'est un peu de tout, mais surtout aussi, les gens mangent.
Est-ce que vous avez mangé des insectes?
Non.
On a regardé.
Vous avez juste regardé?
Non. Sur
une tranche de pain, ça peut toujours.
Il n'y en a pas beaucoup de pain là-bas.
Bon, il n'y a pas beaucoup de pain. D'accord.
Il n'y a pas de blé, il y a du riz.
Voilà, du riz, voilà. Quand on parle Thaïlande, forcément, on parle massage. C'est une tradition là-bas. Tiens, Christine qui est bien.
Oui, je connais un peu.
Bien branchée sur le massage.
Parce que Christine est thaïlandaise.
Voilà, je suis thaïlandaise. Par moment.
Ouais.
Donc, ça, c'est une pratique qui se fait régulièrement, puisque là-bas, le massage se fait en famille, se fait pour se réconforter. C'est très convivial.
Oui, c'est très convivial. C'était même un petit peu une expérience d'être le guide du routard à Chiang Mai, parce qu'on est allé se faire masser par les filles du pénitencier.
Oui, voilà.
Donc, ils sont en rémission et prêtes à être plus ou moins libérés. Ouais, les filles de la prison de Chiang Mai. Donc, voilà. Et puis, t'es dans une salle.
Je te rassure, on va pas dans la prison. Ils ont
une salle de massage.
Donc, toi, tu t'es fait masser.
Oui.
Après avoir fait 500 km de moto.
Oui, c'est très agréable.
Et c'est agréable.
Voilà,
une heure de massage.
Oui, tout à fait.
Ouais.
C'est vraiment très agréable.
Ouais, et on se masse les pieds là-bas.
C'est ce que c'est, ah oui, pied. Un ça, massage de pied, c'est le pied.
Apparemment, vous avez des masseurs de pieds, mais quelquefois, on tombe sur des peloteurs d'orteils. Mais apparemment, ça fait pas de mal.
Ça c'est fait ce pas de mal. Nous, le dernier jour avec Dom, on s'est fait vraiment le dos, la nuque, la tête et tout. On était à deux là, et c'était vraiment c'est géant. Quoi.
Surtout quand on fait de la moto, le dos, ouais, la nuque, c'est vraiment important pour.
Alors après les rallyes, tu vois, le soir, c'est ce qu'il faudrait sur les.
C'est ce qu'il faudrait.
Robert, hein.
On peut étudier la question, on va en parler à la fédération.
Après le petit givret là, qui va y avoir lieu au mois de mars, le rallye. Hein.
Ça peut, t'as pas prévu hein, ça.
Non, t'as pas prévu ce truc-là.
Non.
Voilà, bon. Donc là, on fait le tour. Hein. En fait, sur la carte, ça ne représente pas grand-chose de la Thaïlande. Hein. Vous avez fait combien de kilomètres
On a fait 1100 kilomètres.
1100 kilomètres, et ça ne représente pas beaucoup. En fait, j'ai regardé, la Thaïlande, c'est à peu près la même taille que la France.
Oui, c'est très grand, on ne peut pas en 15 jours de temps, voilà. Surtout quand on a pas voulu faire...
Donc vous pouvez retourner l'année prochaine,
il y a encore plein de choses.
Entre le Chiang Mai où on était, on est descendu donc sur Krabi, il y a quand même 1900 km. Et le billet d'avion était à 30 euros.
Voilà, c'est pas cher. Hein. Voilà, donc là on termine le périple en moto, après c'est retour après plage. Hein, là, c'est plus pour. C'était un deal, en fait, Robert, hein, avec Odile. C'est un deal.
Exactement.
Avec Odile.
C'était un deal qui s'est présenté.
De moto dans le nord. Donc, Odile dit oui, mais moi, l'autre semaine, je vais sur la plage.
Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est aussi la découverte. Hein, donc, pourquoi pas, on y est. Tant qu'on y est, on le refera peut-être pas tout de suite. Et puis, découvrir un petit peu les cloquetiers, les plages, l'eau à 30 degrés, les poissons. T'as l'impression de te baigner dans un aquarium. Quoi, donc,
Oh, c'est fantastique, là, Robert. Là, tu nous fais rêver, là. Ouais. Franchement. Voilà, donc en fait, quand on regarde la carte de la Thaïlande, c'est une langue de terre en fait, hein, qui retourne vers le sud en fait. Voilà. Et c'est là que se trouve le maximum de fréquentation de touristes.
Fréquentation. Bon, aussi pour informer les gens, le soleil il se lève à 6h30, il se couche à 18h,
c'est toujours comme ça. Ouais. Et il y a que deux saisons apparemment là, dans ce pays.
Voilà. Ouais. Enfin, quand on parle de saison des pluies là-bas, que ce qu'on vit ici en ce moment, ça doit être autre chose, quoi, parce que nous, il pleut, mais en plus, il fait froid. Quoi. Ouais. Et là-bas, quand il pleut, il fait bon.
Alors effectivement, après tu racontes, tu sors de la route principale, tu prends une petite route pour monter je sais pas où, et puis il y a des restes de la mousson en fait sur la route,
voilà, c'est ça,
donc
ouais.
un peu de la terre,
un petit peu de terre,
donc il faut faire gaffe si tu roules vite,
tu roules pas,
t'arrives là-dessus, si tu dis à tout les amateurs du genou par terre, c'est pas la peine, c'est pas là-bas qu'il faut aller, c'est trop dangereux.
Voilà, c'est ça. Puis on est allé là au bout d'un chemin, au bout d'une route, et franchement on a découvert des choses extraordinaires, quoi.
Voilà, on vous allez retourner l'année prochaine.
Peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après.
Enfin, c'est un pays que vous conseillez.
Qui est très facile d'accès. Et
c'est facile, ouais.
Pour s'organiser, on n'a pas besoin vraiment de structures, d'hôtels, etc. On trouve très facilement...
Un hébergement tous les soirs, sans problème.
Sans réserver. Problème. Il faut un guide type
qui parle anglais.
Routard, petit futé.
Quelqu'un qui parle anglais.
Quelqu'un qui parle anglais. Bon.
Et un minimum d'anglais.
Un minimum d'anglais. Après, tu as le guide du routard en poche.
Un minimum d'anglais. Tu manges... C'est vraiment facile. Moi, j'étais surprise par ce...
Alors, j'ai lu qu'au début, l'anglais, c'était pas facile, Robert.
Ça remonte très loin.
Et puis, au bout de 15 jours, tu dis, finalement, je commence à me faire comprendre.
À me faire comprendre et à comprendre un petit peu. Mais bon, c'était quand même assez... C'était quand même pas facile. Mais ça fait partie aussi, je pense, du jeu. Moi, ça me stressait pas plus que ça.
Tu serais resté une semaine de plus et parler anglais. Mais alors, écoute...
Non, mais ils ont un anglais aussi, peut-être basique, qui doit être le mien ou le nôtre. Donc voilà, ça facilite les choses. Quoi. Mais c'est vrai que dormir, manger, tu débarques là-bas, tu prends une moto, un scooter, t'es le roi, quoi.
Oui, donc c'est un pays
facile,
qu'il faut faire comme ça. Hein. Faut pas faire un pays prendre une semaine dans un hôtel, rester dans l'hôtel, boire de la piscine et puis rien voir. En fait,
sur mon petit résumé, j'ai un copain, il m'a répondu « j'ai fait comme toi, j'ai tout fait en autocar ». J'ai répondu
« en autocar ».
Non, il n'a pas fait comme toi.
Non, il faut le faire en moto. C'est très bien, une belle balade en moto.
Belle balade en moto, puis je pense que... Je le répète, mais c'est un pays de deux roues, quoi. C'est de 7 à 77 ans, ils sont sur les deux roues, même plus petits, les gamins. Et quand t'arrives dans un pays où tu roules tout en deux roues, quand t'arrives, tu te dis à n'importe où. Voilà, quoi.
Alors, majorité de petites cylindrées, quand même, tu m'as dit.
Petites cylindrées.
Des 200 cm3.
Ouais, je pense que là-bas, Honda, Yamaha, sont. Il n'y a pas de truc chinois ni coréen. Il y a des 200, il y a des 175, il y a des 150, il y a des cylindrées improbables. Hein. Mais enfin, ça roule, hein. Ça roule. Hein.
Bon, ben voilà, hein, donc rendez-vous. Ah, ben, on peut consulter votre petit récit, là. Hein. Ouais, c'est sûr, je ne me souviens plus sur le.
Je le mets en ligne sur mon site d'Esmotwin.
Voilà. Voilà. Et puis, de toute façon, on pourra aussi lire l'article dans
Automag. Surtout, parce que bon, là, il va y avoir vraiment des photos extraordinaires qui ne sont pas là-dedans, parce que justement, il s'est réservé le droit un petit peu français tout, ce qui est normal, hein, c'est son boulot. Et là, il y a des photos quand on roule, il y a vraiment des trucs.
Très bien.
En tout cas, ça fait envie.
Oui, très rapidement, peut-être le budget que vous avez dépensé là sur les 15 jours.
Donc on est parti sur un billet d'avion sec aller-retour vol direct Bangkok Roissy, c'était 650 € par personne et sur place tu dépenses pareil sans se priver. Je m'entends bien.
On avait 2 000 €. Voilà, pour 15 jours. 2500.
2500
pour deux.
Ouais. Avec cadeaux compris, etc.
Ah ouais. Location de la moto.
Oui, bien sûr.
Location de moto.
Ah oui, tout compris.
Reste
hein,
tous les jours.
Bien.
Non, tout va bien.
Et des vraiment des trucs sympas pour dormir. T'as des grands lits, t'as la clim.
Et facile, là.
Et facile.
Bon,
on pense qu'on va le faire, nous, l'année prochaine. Rien de...
C'est
préparateur de balade.
On vous fait un itinéraire et je pense que...
C'est vraiment
je pense que 2016, pour mes 60 balais, je pense qu'on y retournera.
À 60 ans déjà, Robert.
Ouais.
Non, il les fait pas, hein, il les fait pas.
Mais tu les fais pas, Robert, je te rassure.
Ils sont gentils.
Ouais. Allez. On n'a pas dit dans quel sens.
Oui, c'est ça, il fait plus.
Musique.
Yeah.
dit, le Robert, on change un peu, on revient en France. Hein. Les vacances, ça ne va pas durer tout le temps.
Non.
Je suis désolé. Je pensais juste une chose, parce qu'on va parler un petit peu du marché moto.
Donc, on va parler avec Nico du marché moto.
Je pense que nous, en Europe et surtout en France, c'est de la moto 100% plaisir. Tu as la balle de roue, c'est 100% utilitaire.
Ah, c'est utilitaire.
D'accord. C'est tout.
Ouais. Voilà.
Ouais, retour à la réalité, le marché de la moto en 2014. Alors, qu'est-ce que c'est que le marché de la moto? Le marché de la moto, c'est le volume des ventes de motos neuves. Les chiffres sont publiés par la Chambre syndicale de l'automobile et du motocycle. Et pourquoi je veux en parler? Parce qu'on apprend des choses étonnantes. Alors, on apprend par exemple que la France, depuis 2012, il y a deux ans, le marché français est le plus gros marché de deux roues motorisées en Europe. Devant dans l'ordre l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Et pour vous dire que ça bouge, il y a 10 ans, le premier, c'était l'Espagne. La crise est passée par là. Donc on est le pays européen où on vend le plus de deux roues motorisées. Mais c'est un marché qui se casse la figure depuis son apogée en 2007. La pire année, c'était l'an dernier, en 2013. Il se casse juste la figure en France un peu moins vite qu'ailleurs. Et pourquoi il déringole un peu moins vite qu'ailleurs? Et là, il faut fouiller dans les chiffres. Et c'est là qu'on a des surprises. Oui, parce que quand on nous dit marché de la moto, je pense les ventes de motos, normal. Mais quand j'ai regardé les chiffres, là, j'ai compris ce qui se passe. Il faut que je prévienne un petit peu, parce que s'il y a des vieux motards qui nous écoutent, certains risquent d'avoir un malaise.
Ah ouais, Robert, enlève le casque.
Les chiffres sont classés par cylindrée. Les 50. Vous vous souvenez, les balades en mob à 14 ans? C'est fini. 90% des 50 sont des scooters. Les ventes chutent de 10% par an, et ça représente en gros encore 100 000 machines en 2014. Les 125. Vous vous souvenez, les 125? Les balades en 125 à 16 ans, la liberté, les bourres à 4 de front dans chaque virage.
Ah ouais, les RDX.
C'est fini aussi. 3/4 des 125 sont des scooters. Les ventes sont en recul de 5%, et il y a 40 000 machines qui ont été vendues cette année. Donc, pour l'instant, le marché de la moto en France, c'est des scooters. Vous savez, des fois, sur la route, on fait signe, on nous répond pas, et en croisant, on se rend compte que c'était un scooter. Et là, on s'en veut et on se tape la honte tout seul dans son casque pendant au moins 3 km.
Là, pourquoi on fait pas signer un scooter, d'ailleurs?
C'est vrai, mais ils font pas signe non plus. Et c'est vrai que maintenant, il y a des GT, ça ressemble à des scooters, alors on sait avoir.
C'est plus trop. Ouais.
Donc après, dans les chiffres, c'est les plus de 125. Alors là, je me suis dit, sauvé, enfin les motos. Sauf que il y a deux lignes, encore pire. Alors, c'est marqué « dont 3 roues ». Alors, il ne différencie pas si c'est sur les 3 roues, si les 2 roues elles sont à l'avant ou à l'arrière. Donc, si c'est un trike ou un scooter à 3 roues. Ouais. Et après, il y a une notine, c'est marqué « dont quad ».
Ah, quelle horreur!
La miche, il faut arrêter les conneries. Des 3 roues et des 4 roues, oui. Dans les 2 roues motorisées.
Non, mais c'est n'importe quoi. C'est ça, j'ai un malaise. Moi, je suis aussi vieux que Robert.
Ouais, mais attention, un 3 roues, ça peut être un sidecar, non? Parce que ça, c'est des vrais motos quand même, non? Tu me fais peur parce que moi, je suis sidecariste, alors là.
Ça n'existe plus, ça.
Ça n'existe plus.
Tu connais un sidecar qui s'est vendu neuf cette année? Non, ça n'existe plus. Donc.
Ah, si, j'en connais un. Mais un seul.
Un seul. Ouais, je pense que c'était le seul, alors. Donc on a donc ces machins-là, les deux roues, les trois roues et les quatre roues, c'est la plus forte progression. 25% par an, c'est énorme. Il s'en vend maintenant 400 000 par an, donc au top des 125. Les 125 qui, rappelons-le, étaient d'ailleurs majoritairement des scooters. Donc on a encore quasiment pas vu une seule vraie moto et on a déjà taffé les deux tiers des ventes 2014.
On peut peut-être faire une pause pour avant d'arriver aux motos là.
On va la faire après. Et donc là on comprend pourquoi on trouve plus de petits magasins avec le patron en bleu de travail, passionné de moto, qui ronchonne dans son atelier quand un client arrive. À la place maintenant c'est un centre commercial, on t'offre le café, ça déborde d'accessoires, de fringues, et certains vendeurs semblent avoir été embauchés juste parce qu'ils avaient déjà roulé 10 minutes sur un scooter. Alors l'explication de tout ça, c'est les bouchons et la réglementation française. Parce qu'en France, si t'as le permis de voiture et 7 heures de formation, tu peux rouler sur un scooter 125 et même en 3 roues sur un scooter tout cylindré. Et si tu peux prouver que tu as déjà sur un 125, t'as même pas besoin de passer les 7 heures de formation. Donc on va essayer de se remettre de tout ça en écoutant un petit morceau de musique. Et après, promis juré, on va attaquer les vraies motos et voir le top 10 des modèles, les ventes par marque. Et on va encore être surpris.
Ah.
Nico, on va enfin parler moto.
Oui, on va enfin
sur
parler
ce marché. Ouais. Moto.
Oui, des vrais, avec deux roues. Donc, pour résumer, on a vu que le marché des motos, vraiment les vrais à deux roues, ben, régresse fortement. Et ce sont les automobilistes devenus scooteristes à deux ou trois roues pour les trajets domicile-travail, qui évite que le volume des ventes ne s'effondre complètement. Mais vous allez me dire, c'est même pas possible tes chiffres là, on voit des motos partout. Eh oui, c'est vrai. Mais pas des neuves. Alors, en 2008, ils vendaient deux fois plus de motos d'occasion que de motos neuves. Et en 2013, c'est quatre fois plus. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a... Quand on voit une moto, il y en a qui vend une neuve, il y en a quatre qui se vendent d'occasion. Donc c'est énorme. Donc l'âge moyen de l'acheteur d'une moto neuve, c'est intéressant aussi, c'était 40 ans. C'est 40 ans maintenant. L'acheteur d'une moto neuve, 40 ans. En 2000, c'était 33 ans. Donc ça vieillit. Et donc bon, on va attaquer maintenant le top 10 des marques. Alors là, c'est intéressant aussi parce que ça bouge beaucoup. Si on prend il y a 10 ans, en 2004, pour les plus de 125, hein, donc c'était les Japonais qui étaient largement en tête. Hein, Yamaha 23%, Suzuki 22%, Honda 14%, Kawasaki 12%. Et après, les Européens, c'était les miettes. Hein, BMW 7%, KTM 3%, Harley 3%, Ducati 3%, Triumph 2%. C'était les miettes. En 2014, Yamaha se maintient, 21%. Honda se maintient, 13%. Kawasaki, c'est à peu près 13%. Et après, c'est BMW, 12%. Ils ont dépassé Suzuki, qui est à 9%, qui s'est effondré. Harley-Davidson, 8%. Triumph, 6%. KTM, 5%. Ducati, 4%. Donc, en fait, au niveau part de marché, les Japonais ont perdu beaucoup. Et les marques à forte identité européenne, elles progressent. En gros, les Japonais, ça représentait, en 2004, ça représentait 70% des ventes. C'est 52% maintenant. Donc, ça régresse fortement. Et le pire, c'est Suzuki, qui est passé de 22%, qui était un leader en 2004, avec à l'époque les Bandit et les 650 SV. Ils vendent plus rien maintenant. Ils sont à 9%. Donc voilà pour les plus 125. Et si on regarde les plus de 750 maintenant, les vraies motos qui ont une forte valeur ajoutée et qui font gagner de l'argent finalement aux constructeurs. Alors là, c'est carrément un autre monde. C'est tout à fait nouveau depuis 2-3 ans. Mais ce marché-là a fortement évolué. Dans le marché des plus de 750, BMW est premier avec 21% du marché des plus de 750. Alors qu'il y a des 800 Kawa qui se vendent à tour de bras. Hein, donc ça veut dire que... Le deuxième d'ailleurs, c'est Kawasaki. Je pense que c'est avec la 800 Kawa. La Z800. Et puis derrière, Yamaha qui se maintient. Et puis Honda et Ducati, Triumph, Suzuki, KTM, Aprilia. Mais l'arrivée les deux premiers, c'est BMW et Harley quand même. En plus de 50, c'est dingue. Donc ça veut dire que BMW et Harley engrangent des bénéfices en vendant des modèles très chers. Mais il y a le côté valorisation du propriétaire qui intervient et qui finalement c'est ça qui tire le marché. Alors maintenant on va voir un petit peu au niveau des modèles proprement dit. Donc il faut savoir que 2013 c'était la pire année au niveau des ventes de motos neuves. Et la première année en 2013, le top 10, la première moto vendue en 2013, c'était la 500 T-Max.
Mais c'est un scooter.
Un scooter. Non mais c'est dingue. Ça veut dire non, c'est vraiment un marché qui est en pleine évolution. C'est-à-dire que la moto, ça, c'est devenu un petit morceau du marché des deux roues. Mais c'est plus ça qui, hein, on imagine mal. Parce que effectivement, il y a tellement un volume de motos d'occasion important qu'on se rend pas vraiment compte. Ça lisse un peu les sensations, mais quand on étudie les chiffres, ça fait peur. Hein. Et donc cette année, il y a quand même des nouveautés qui sont sorties qui tirent le marché. Il y a la Yamaha MT-07, c'est celle qui est la moto la plus vendue. La deuxième, la Kawasaki Z800 qui se maintient bien. La troisième, c'est le T-Max, un scooter. La Kawasaki R6 en quatrième, c'est la moto d'auto-école. Hein. La MT-09, nouveauté de Yamaha, 3 cylindres qui marche un petit peu sur les plates-bandes de Triumph qui fonctionne bien, les cinquièmes. Et ensuite, sixième, la GS, 1200 GS BMW, une moto à 20 000 euros. Quoi. Et derrière la Suzuki 750 GSR, un Roadster, la Honda CB500, et ensuite la Street Triumph, et dixième, la 1200 RT. Encore une bécane avec un budget infernal. Donc, et ce qui est marrant aussi, c'est que si on regarde le top 10, c'est pas beaucoup, c'est les 10 premières motos vendues, hein, il y en a des centaines dans les modèles. Les 10 premières motos vendues, ça représente un tiers des ventes. C'est-à-dire qu'il y a une forte concentration, tout le monde achète la même chose. En
la même chose.
Ouais. Et donc, pour conclure un petit peu, il y a trois sortes de clients pour les motos neuves. Donc, au vu de tous ces chiffres, les urbains, hein, donc des scootéristes de trois roues qui utilisent leurs engins pour aller domicile-travail, les bouchons, on connaît ça sur la 1 partout, la 25. Les occasionnels, qui l'utilisent plus pour les loisirs, donc eux vont acheter des roadsters à la mode ou des motos à forte identité, style Harley. Et dernière catégorie de clients, pour les motos neuves, les motards passionnés, ceux qui roulent en gros cylindrés et souvent en BM1. Et ceux-là, c'est les mêmes depuis longtemps et ils vieillissent. Mais on s'en fout, c'est pas nous, parce que nous, on roule en moto d'occasion.
et dans tout ça, Nico, t'as pas parlé de la moto électrique ? Allez-vous,
non. Alors la moto électrique, j'en ai pas parlé pour une bonne raison, c'est qu'elle représente 0,01% du marché. Donc il s'en vend une centaine. Donc c'est anecdotique.
Oui, Robert.
C'est juste sur la moto électrique. Le gars qui est champion de France de trial cette année, c'est une moto électrique.
Toi, Nico.
Bah non, mais c'est vrai que le trial électrique, ça va bien. Ça va bien. C'est facile. C'est doux.
Oui, trial, c'est facile. Oui, c'est facile, mais bon, c'est facile de le dire.
Et puis une zone de trial, ça dure pas longtemps. Le mec est pas encore déchargé quand t'es allé au bout.
Et puis tu peux recharger entre deux, quoi. T'as pas fini la zone. Voilà, bon, bah c'est terminé, Nico, là, pour le marché. Bon, c'est pas très.
Ben, ça fait peur quand même.
C'est pas rassurant, quand même.
Ça bouge beaucoup.
On va finir, on est combien de motards, là? 4 motards. On va finir à 4 dans le monde.
Ben non, mais je pense que quelque part, on a connu la moto à ses débuts, dans les années 70, quand elle a revécu un bon coup, là.
Effectivement.
Et je crois qu'on va connaître l'effondrement.
On va connaître l'effondrement, tu crois?
On va voir la fin du film.
Bon, Christine.
Oui.
C'est important, une info importante.
Ah oui, alors une info importante, le calendrier des motards 2015 qui va
sortir. Le calendrier.
Voilà, la sortie officielle le 9 janvier est dite au Splendide à Lille. Donc, pour ça, on va vous offrir des concerts gratuits à partir de 19h30. Donc, avec la participation des vieilles beats.
Ah ouais, tiens.
Voilà, à découvrir.
Et comment ils vont là?
Le trio lillois L'Envie et la participation exceptionnelle de Christophe Marquilly.
Ah, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Voilà.
Et donc, bien voilà, un concert gratuit. Et pour déjà nous mettre bien, c'est bien, je vous invite à écouter un petit morceau du groupe L'Envie.
Avec Paradoxe.
L'amour. La mort. Des conneries en tout genre. Ce ciel obscur. Bon de mon idylle d'azur, cerné d'une routine enragée. Ces quelques mots qui montent trop haut. C'est le caprice de toute une vie, c'est la paresse de mon ennui. C'est le caprice de toute une vie, c'est la paresse de mon ennui. S'accabler d'un malheur à toute heure retranscrire.
Le bonheur par la peur. Hey.
C'est la paresse de mon ennui. C'est le caprice de toute une vie. C'est la paresse de mon ennui. S'accabler d'un malheur à toute heure retranscrire.
Le bonheur par la peur.
Hey!
Dream about love.
Et au téléphone, nous avons Jacques Montagnon. Allô ?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour Jacques, tu te présentes aux auditeurs de Radio Campus Lille. Tu es l'organisateur donc de l'hivernale des marmottes, c'est la qui se passe à Saint-Véran et qui c'est la première hivernale de 2015 en fait, parce qu'elle aura lieu le 10 et 11 janvier.
Oui, tout à fait. Je vois que tu es bien renseigné, pas de souci.
Voilà, je suis pile poil, tu vois. Et donc déjà, je voudrais savoir, parce que j'ai vu des photos, hein, est-ce qu'il y a de la neige aujourd'hui ?
Ah, au jour d'aujourd'hui, c'est à peine blanc là-haut. Hein.
C'est à peine blanc. Ah, oh, tu sais, une hivernale sans neige.
Vous pouvez demander à tous les skieurs en ce moment là, c'est la désolation, c'est
une
belle journée de printemps carrément là. Non, mais il y a encore 3 semaines. Donc,
il y a encore 3 semaines. Oh, c'est revenu.
Ils annoncent du froid à la fin de la semaine et voilà. Comme bien souvent, ça va arriver entre Noël et le jour de l'an, quoi.
D'accord. Parlons un petit peu de ce petit village là-bas, Saint-Véran. Hein. C'est le village le plus haut d'Europe, je crois.
Oui, alors je me souviens plus si c'est le village ou la commune, parce que ça
c'est la commune, ah oui,
avec une avec un village qui est, je sais plus, en Italie ou je sais plus où. Enfin bref, c'est un des villages les plus hauts d'Europe puisqu'il se situe à 2040 mètres d'altitude exactement au centre du village. Et puis écoutez, c'est un village magnifique. Enfin, tous ceux qui le connaissent, qui sont montés là-haut, que ce soit en été ou en hiver, on est au milieu des chamois ou des marmottes quand c'est l'été, d'où le rassemblement des marmottes, voilà.
D'accord, explique-nous un petit peu pour un motard qui voudrait pour la première fois hein, aller participer à ce rassemblement, comment on équipe comment on équipe la moto, est-ce qu'il faut des chaînes ou autre chose, ou comment on fait, parce que il faut monter, on est à 2600 mètres, c'est ça,
2040
donc il faut des chaînes, il faut équiper la moto de chaînes.
Eh ben, en fait, ça dépend un peu des saisons. Hein. Il y a des années où les routes sont très bien dégagées, donc il n'y a aucun souci pour monter avec des pneus routes, carrément. Tous les ans, on a là-haut des Harley Davidson, des...
Ah oui, quand même !
...qui montent, oui, ben, les gars n'ont pas peur. Hein,
oh, d'accord.
Voilà. Après, si on tombe le jour où il y a des chutes de neige, effectivement, là, ça peut devenir galère. Alors, les habitués des hivernales... ils ont leur petit secret à eux. Suivant la moto, c'est sûr qu'il est possible de monter des chaînes. Il est possible, les plus extrêmes, les gars qui roulent beaucoup l'hiver, on a beaucoup de motos qui sont équipées avec des skis sur les côtés.
Avec des skis sur les côtés, bah oui, hein, c'est
oui,
ça.
Ouais, oui, t'as dû en voir sur les photos.
J'ai vu ça sur les photos, oui. Sur
site internet, d'ailleurs, on a... En France, il existe une bonne vingtaine de mordus là, qui ont les motos équipées comme ça, hein, avec carrément...
D'accord.
Carrément les skis, ils ont les chaînes. Un truc qui marche bien, c'est les nouvelles chaînes entre guillemets que feront Michelin, là, les chaînes en corde.
D'accord. Parce que on a un spécialiste des hivernales ici, c'est Yannis, et lui il y a une astuce. Parce qu'il roule en Zeus.
Bah oui, mais sur mon Zeus, je mets des pneus neige, ça suffit pour monter quand il y a de la neige.
Oui, bien sûr, un Zeus équipé avec 3 pneus neige, il passe pratiquement partout, quoi. Ouais. Quand le Zeus commence à bloquer, il y en a beaucoup qui sont déjà.
C'est plus possible.
Ouais, c'est plus possible
pour les autres.
De toute façon, c'est tellement large, ça bloque la route, alors.
Ça bloque la route, voilà. Il y a un camion en travail, on peut plus passer. Mais c'est vrai que les chaînes Michelin, là, sur les Zeus aussi, quand vraiment on commence à être bloqué, c'est l'idéal, quoi. On monte ça sur les deux roues motrices et puis.
Donc on peut. Ça se fait en solo, hein. Ça se fait en solo aussi. Hein. J'ai vu sur les photos, il y a des solos, il y a du side. Hein,
Oui, bien sûr. Ben, en sidecar, c'est facile. Généralement, ils sont montés avec des pneus voiture. Donc on monte des contacts et puis il n'y a pas de souci. Hein. Dans le pire des cas, quand ça commence à bloquer un peu, on dégonfle, on descend le pneu à 800 grammes ou 1 kilo, et puis on met le passager derrière sur la selle, et puis on grimpe vraiment partout. Hein.
Oui.
Après, le problème, c'est plus les solos. Oui.
D'accord.
Alors dis-moi, c'est une concentration hivernale où on campe. Est-ce que les températures, ça descend jusqu'à combien là, à Saint-Véran l'hiver? Quel est le record de froid que vous ayez eu depuis que ça existe, les marmottes?
Alors bon, moi je l'ai pas fait depuis toutes les années parce que en fait je suis le repreneur hein, de l'organisateur. Au départ c'était Pierre Védel, hein,
Védel
qui est
connu
dans le monde de la moto,
ouais,
hein, ouais. Ancien journaliste, moto revue, journal, enfin il a fait un peu le tour de la planète moto. Et c'est lui qui avait créé ça en l'an 2000. Et en fait il a créé ça, c'était un rassemblement informel au départ. C'est une idée, il a dit à ses copains, tiens si on se retrouvait à Saint-Véran le premier week-end de janvier, c'est le plus haut village de... Voilà, c'est parti comme un défi. Ils se sont retrouvés une vingtaine la première année, et puis après ça a pris de plus en plus, quoi. Mais l'esprit est resté le même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inscription, c'est rendez-vous là-haut à la date qui est prévue. Et puis l'avantage, les purs et durs décrit un peu les marmottes en disant oui, mais il y en a la moitié qui dorment dans des gîtes ou dans des hôtels. Mais d'un autre côté, ça permet à des gens qui aiment bien rouler l'hiver sur la neige ou n'importe, mais qui n'aiment pas spécialement dormir sous une tente par moins 10 degrés, voilà. Alors on a la moitié des participants qui dorment, on va dire, au chaud, dans tout ce qui est alloué là-haut, hein, il y a gîtes, hôtels, il y a de tout. Hein. Et puis une moitié qui campe, c'est-à-dire une petite centaine de personnes qui campent à l'entrée du village. Il y a un immense parking qui est mis à notre disposition, avec toilettes, tout ça. On essaye d'avoir toujours un petit stock de bois pour ceux qui veulent se faire un feu de camp et passer la nuit autour du feu, voilà.
Donc il y a pas d'invitation, il y a pas de numerus clausus.
Non, on se présente là-haut avec sa tente si on veut camper, si on veut réserver. Bon, sur le site il y a toutes les adresses. Hein, on va sur la page de Festi Saint-Véran, hein, qui est le syndicat d'initiative en fait, et on a toutes les adresses pour pouvoir louer suivant les tarifs et tout ça. Ça m'est arrivé de monter tout avec un groupe de copains et puis de se louer un petit chalet et puis de passer trois nuits là-haut, voilà, tranquille, au coin du feu.
Je crois qu'il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance, parce que j'avais eu un contact avec l'office de tourisme de Saint-Véran pour savoir quelles étaient les retombées des marmottes sur Saint-Véran. Il me disait que les hébergements à Saint-Véran le jour de la concentre, ils étaient pleins, quoi. Donc il faut pas s'y prendre à la dernière minute, a priori.
Oui, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance, mais bon, je pense qu'il est toujours possible de trouver au dernier moment quelque chose, oui. Le problème, c'est que bon, moi, je décale toujours après les congés scolaires pour qu'on soit tranquille, quoi, qu'on soit pas pris au milieu des. Comme ça fait un peu station de ski aussi, ben qu'il n'y ait pas tous les skieurs et tout ça qui envahissent les parkings. Donc, on est plus tranquille après, la semaine d'après. Mais d'un autre côté, ben il y a quelques hôtels, hébergements qui sont fermés. Mais non, il y a jamais personne qui est resté à la rue. Hein.
D'accord.
On a toujours trouvé à loger du monde, il n'y a pas de souci. Hein.
Ouais, on a vu des photos, comme disait la Miche, assez impressionnantes, avec des murs de neige quand même, certaines années, de plusieurs mètres.
2010, qui a été une année très très hard en neige. Moi, je sais que j'habite du côté de Bourgoin-Jallieu, hein, donc entre Lyon et Grenoble. En temps normal, il me faut 3 heures pour monter là-haut. On a mis 8h30, quoi.
D'accord, c'est une véritable expédition.
J'ai eu la neige à la sortie de mon garage jusque là-haut. Donc voilà. Ça, c'était vraiment l'année extrême. Bon, après, bien souvent, on a de la neige sur les 4-5 derniers kilomètres, parce que bon, ça monte vite en altitude à la fin.
Et au niveau des températures, là, tu.
Parce que tout à l'heure. Généralement, on a entre moins 5 et moins 10 la nuit, quoi.
D'accord, hein, pas moins.
Enfin, on n'a pas eu moins ces dernières années. Non,
d'accord. Ça reste acceptable.
Oui, ça reste dans le raisonnable. C'est pas encore le lac Baïkal ou la.
D'accord.
D'accord.
Bon, on rappelle que c'est le 10 et 11 janvier.
10 et 11 janvier. Hein, voilà. Alors, cette année, enfin, généralement, ça tombe toujours en même temps que la concentration des pingouins en Espagne.
Oui. Ah, mais il n'y a pas de pingouins cette année. Voilà, pas de pingouins.
Cette année, ça a été annulé et je trouve que je reçois beaucoup de coups de fil et de mails me demandant des renseignements. Je crois qu'on récupère un peu de.
Ah, tu vois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein.
C'est pas une entreprise à but lucratif.
Non, mais bon, voilà quoi. Non, mais bon.
Moi, je gagne rien là-dessus.
C'est façon de parler.
Des écussons que je vends presque à prix coûtant. Ceux qui sont dus et ceux qui les veulent. Et puis voilà quoi, hein, ça reste ce côté sympa, ces rendez-vous là-haut. Bon, il y a un vin chaud organisé, offert par la mairie le samedi soir. Après, on fait un tour du village au flambeau avec les sidecars pour faire une petite animation aussi. Et puis ça permet de retrouver tous ceux qui campent sur le parking à l'entrée et puis qui sont dans les différents hôtels. Tout le monde se retrouve pendant une paire d'heures le samedi soir, c'est sympa.
Est-ce que tu es chez Gilles Nully?
Oui, je suis ici.
Est-ce que tu lui as demandé s'il voulait bien nous parler au téléphone pour présenter un peu
ce qui est
le rallye des cols blancs, hein.
Voilà, je vous l'appelle.
On va passer un morceau de musique. Tu l'appelles et tu restes au téléphone durant le morceau de musique et on le reprend après.
Pas de souci.
À tout à l'heure.
Merci à vous. À plus. Oui.
Voilà, on repart en Haute-Savoie. En téléphone, nous avons Gilles Nulli.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, c'est bien la Haute-Savoie ou la Savoie ou...
La Haute-Savoie.
La Haute-Savoie, très bien. Ce serait... Tu peux nous parler... alors, moi, je suis allé sur ton blog. Alors là, toi aussi, t'es vraiment incroyable. D'abord, tu fais le rallye des Cols Blancs.
Voilà, nous, on organise ici le rallye des Cols Blancs, qui est un tout petit rallye d'une trentaine de motos.
D'accord. Tu as fait quelque chose d'incroyable cette année, là, ou cette année dernière, 18 pays en 40 jours, en décembre.
Ben, j'y étais il y a un an, et puis honnêtement, j'aimerais bien y être encore. Hein. Je suis parti le 1er décembre pour 40 jours, mon cadeau de mes 50 ans. Ma femme m'a laissé partir, et puis je suis parti sans organiser vraiment quoi que ce soit. J'avais fait mon tracé sur les cartes. Et puis voilà, avec un smartphone, les réservations au fur et à mesure, et puis 12 600 km de grand bonheur.
D'accord, mais raconte-nous un peu là, parce que tu es monté jusqu'en Norvège.
Voilà, je suis monté j'ai pas été au nord de la Norvège, parce que j'avais pas trop envie de rouler pour rouler, c'est différent que l'été. J'ai fait les coins qui me plaisaient, et j'avais que 40 jours, donc j'avais quand même 18 pays à faire. Je suis monté, parce que j'ai eu deux personnes qui m'ont rejoint à certains moments, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, frontière russe, redescendu jusqu'à Istanbul.
Et tout ça au mois de décembre, hein?
Alors décembre et puis le début janvier.
Le début janvier, hein. Bon, c'est pas l'été. Hein.
L'été m'intéressait pas.
D'accord.
Avec un sidecar un peu spécial, Gilles, tu peux nous en parler?
Alors, il est pas vraiment spécial. Je le fais faire sur mesure, comme beaucoup de gens, chez notre ami Jean-Louis Damois à Albas, en Haute-Savoie. Je voulais une moto qui roule bien. Je voulais pas une sportive, donc j'avais choisi une GS. Et j'avais fait une bonne révision, et puis c'est parti.
Voilà, avec un...
J'ai pas fait de tout chemin. C'est pas le Paris-Dakar non plus. Hein. J'avais un tablier, j'avais des manchons, j'avais un gilet chauffant, des bonnes bottes, et puis ça y est, hein.
Donc toi tu pars comme ça, toi, on t'offre un cadeau.
C'est notre grand bonheur avec Jacques que tu as eu tout à l'heure au téléphone, où on part à 6h du matin et puis on va se faire l'école.
Voilà.
Et à 3h de l'après-midi on est rentré, on a été chercher la neige, on va passer où les gens enchaînent en voiture, ben on passe tranquillement en sidecar.
Voilà, c'est génial le site. Donc ton sidecar c'était un 1200 GS Aventure avec un...
C'est ça, une 1200 GSA avec un Comet et un méga Comet en caisse et un châssis DJ Construction que j'ai vendu en rentrant. Et là je viens d'en ressortir un tout nouveau qui est sur la même base avec un méga Comet et une KTM 1200.
Mais d'accord, le Mustang 2 donc.
Voilà, le 2.
Mais
chiffres, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais...
Mais entre les deux, tu avais chez un Zeus.
Voilà, alors entre les deux, j'ai eu un moment de...
D'errance.
De doute.
Mais j'ai voulu essayer un Zeus. Et en toute honnêteté, c'est extraordinaire.
Ah, c'est bien, moi j'en ai un, là, c'est
parce
super.
Que là, alors là, vous allez... Bon, on va vous laisser à deux.
Hein. Non, franchement j'ai trouvé ça fantastique. Mais ma femme m'a regardé et m'a dit que je préférais l'ancien. Voilà, donc j'ai refait un nouveau sidecar. Mais le Zeus, c'est vraiment un outil extraordinaire.
Ouais, moi, j'ai aperçu ton Mustang 1 au Mille Vaches, là, il y a deux ans. Là, j'ai vraiment aperçu, et magnifique. Hein, je suis allé voir ton site sur Internet, bien sûr. Et j'ai regardé sous toutes les coutures, était vraiment très, très, très beau ton BMW. Bon,
apparemment, sur votre blog, j'ai vu que vous avez un hôtel, enfin, c'est un gîte pour motards, en fait. Ouais, un hôtel pour motards.
Je ne fais pas que motards, hein, j'essaie de prendre tout le monde.
Oui, pour tout le monde, mais.
Les motards sont bien accueillis.
Tu favorises les motards. Tu leur réserves la meilleure chambre.
Voilà. Si t'as pas la carte de motard, tu peux pas venir.
D'accord.
Non, mais, tout le monde vient et puis j'ai beaucoup de monde l'été qui viennent parce qu'on leur fait découvrir la Haute-Savoie. Je suis pas d'ici, moi. Hein. Je suis du Sud et puis je suis parti vivre au Canada et je suis revenu à 6 ans. Et c'est vrai que la Haute-Savoie et la Savoie sont extraordinaires pour des motards. Il y a de la route qui tourne dans tous les sens. Donc les gens viennent vraiment se régaler ici.
Très bien, donne-nous un peu l'adresse de ton hôtel.
Mon hôtel, il est sur le lac d'Annecy, c'est à Saint-Joriot. Le plus facile, c'est d'aller sur Internet. Vous avez un site qui regroupe tout ça, qui s'appelle motoannecy.com. Moto au singulier, M-O-T-O, annecy.com. Et là, on parle de nos rassemblements avec Jacques, du rallye des Cols Blancs, des Marmottes, notre hôtel... On est vraiment des passionnés, hein. On a dépassé les 50 ans et puis ça fait très longtemps qu'on roule en sidecar Et comme beaucoup de sidecaristes, on est vraiment passionnés. Et puis au moins, les gens qui viennent chez nous peuvent... Enfin, on est entre nous, quoi.
Très bien.
Est-ce qu'on peut rappeler, Gilles, que ton trip hivernal de l'année dernière a fait l'objet d'un reportage sur le magazine Road Trip,
oui,
du l'avant-dernier numéro, hein, qu'on peut retrouver encore.
L'avant-dernier numéro, et puis vous l'avez en ligne en permanence. Ça s'appelle montripenside.com. Mm-hmm. Montripenside, et puis là, vous allez rêver avec moi. Mais j'ai pas le droit, ma femme m'interdit de repartir tous les ans, en fait.
Alors, bon, 40 jours, ça fait.
Je profite de la radio, si vous pouvez faire une pétition.
Oui.
Hein, pour obliger un peu ma femme à me laisser partir.
Bon, mais il faut la prendre avec. Bon, tu la prends avec.
On arrive.
On fait entreprise pour tourner en même temps. Hein.
Bon, on va commencer la pétition là. On va la mettre
voilà,
sur
la ligne.
Voilà, merci. Bon, ben, Gilles, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci Gilles.
Je suis très heureux de vous avoir eu en ligne aussi. Et puis si vous passez en Haute-Savoie, on sera très content de.
On passera de voir.
On passera de voir là.
Nous on ramènera une bouteille de bière.
Voilà. Sur la route des marmottes, on passera par chez toi.
Exactement. Voilà. Je suis aux marmottes.
Ah ouais, ce sera pas cette année pour moi parce que mon Zeus est en panne, ça arrive aussi.
Faut pas dire ça.
Bon. Merci Gilles.
Bonne fête à tous. Merci
oui, également.
Et bonne fête à tout le monde.
Au revoir.
Salut Gilles.
Bon, Christine, une info importante et majeure de l'année 2015. Parce que là, si on se bouge pas les fesses, Eh bien, en 2016, il n'y a plus de circuit.
Voilà, le circuit de Lausanne
disparaît. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, nous les motards.
Donc, pour rappeler, la FFM vient de rendre son rapport et ses préconisations concernant ce circuit. Donc, la FFM oblige à réaliser un certain nombre de travaux. Et c'est seulement une fois ces travaux réalisés que le dossier d'homologation pourra être déposé en préfecture. Donc, ça ne sera pas encore gagné. Hein. Donc, le coût des travaux est d'environ 270 000 euros. Donc, l'association ARCM a débloqué 100 000 euros de ses propres fonds. Donc, il reste donc 170 000 euros à trouver en sollicitant les pouvoirs publics, les sponsors, la FFM. Et vous, les motards, en fait, venez donner vos dons à, justement à cette association pour sauver le circuit.
Alors, que ce soit 5 euros, 10 euros, tout ce que vous voulez, mais peu importe.
Donc,
un peu d'argent.
Voilà, donc je vous invite à télécharger le formulaire de don qui est sur pistelezen.free.fr. Vous allez tomber sur la news et au bas de la news, vous avez donc vous cliquez le lien et vous aurez le formulaire pour vos dons.
Très bien, l'émission se termine. Il nous reste 1 minute 30 avant générique. Robert, le rallye, le 7 mars, les petits givrés.
Petits givrés.
Ça joue.
Sixième.
Ça se joue.
Ça va jouer à guichet fermé.
En couture, c'est fermé, guichet fermé. Hein, voilà. Chercher guichet fermé. Oui. Il y a autant d'inscrits, c'est quand même incroyable. Ça marche bien, ça, le rallye, là.
Oui, ils en demandent. Hein, plus c'est dur, et puis plus c'est.
Ah, bah, tu vois, plus c'est bien, et voilà, c'est ça.
Départ à arrivée de Moucron, et puis on va visiter le plateau d'Artois et la côte, Tablandet, tout ça, quoi.
C'est sur 3 jours?
Non, c'est sur une journée.
C'est sur une journée. Avant, tu faisais ça sur 3 jours?
Non,
une journée, donc, ici, dans la région.
Ceux qui font tout, il y a 400 bandes, quand même.
Ah oui, quand même, 400 bandes, quand même.
Ouais,
très bien. Après, il y a le 18 avril, hein, c'est sur le circuit de Clastres.
Circuit de Clastres, ouais, qui, après les travaux, maintenant, est le plus grand circuit au nord de Paris. Il faut savoir qu'il fait 3
kilomètres. Donc, la piste a été rallongée. Hein,
Élargie.
Oui.
Non, allongée.
Allongée aussi.
1 km en plus.
Ah, ouais.
Il faut savoir qu'à Trois-Enterrement, on est à 1,9 km. À Clastres, on est à 3 km.
Très bien, et ça c'est le 18 avril, je rappelle.
18 avril, le samedi, et puis on.
Et là, on peut encore s'inscrire.
On peut encore s'inscrire, on était à.
Là, c'est pour des démos, hein, démos, moto.
Démos, voilà. Moto ancienne en priorité, moto ancienne, 92, oui. Et puis moto moderne, super motard, parce que les sidecars ne sont pas décidés à venir depuis longtemps. Donc voilà.
D'accord, très bien.
Hélas.
Voilà, et on va sur le. Je crois qu'il y a un site, hein, où.
Ouais, Desmotwin.
Ce sera sur le calendrier de.
Desmotwin 5962, voilà. On sera sur le calendrier des amis de la moto aussi, on est un peu partout.
Voilà, le générique arrive.
Et oui.
Et voilà, mission se termine.
Merci à toi. Je dis que ceux qui veulent venir en Thaïlande et qui veulent des infos, ben, ils me joignent, hein, ils me contactent.
Robert de Godèze.
Robert
Yodil. Tout le monde le connaît dans la région.
Amber Yodil, et puis voilà.
Voilà. Merci d'être venu. C'est la toute dernière émission de l'année 2014. Voilà, on va se retrouver.
Il y aura peut-être des rediffs entre Noël et Nouvel An.
Si on peut le faire, peut-être on verra. Nous, on va se retrouver le 4 janvier pour un spécial. Moto électrique. Oh là là, ça va être chaud. Avec le pour et le contre, avec notre ami Nicolas qui sera là. Bon voilà,
le contre.
Voilà. Merci Odile, merci Robert, merci Yanis,
merci
Nico, merci Christine, merci Laurent. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, un bon Nouvel An.
Et à l'année prochaine.
Et à l'année prochaine. On se retrouve le 4.
Allez, salut.
Et au revoir.